et mes projets artistiques sont là aussi pour créer des fantasmes. Et True Aura vient aussi, j'ai fait réaliser un film avec Andy Bolus qui s'appelle Free as Dead, et qui est, on peut le trouver sur YouTube, ce film, hein, vous pouvez aller le voir, et c'est revisiter toujours les concepts de la Belle et la Bête, et donc je vis, voilà, ces histoires de monstres, de jeunes filles, comme ça, de damsel in distress, et voilà, et donc toutes ces pratiques artistiques, elles m'emmènent dans des mondes différents, dans des fantasmagories, et bien évidemment, à l'intérieur de ces fantasmes, dans des vies parallèles, dans des vies dans lesquelles on peut rêver, il y a forcément une forme de mysticisme qui existe, tout à fait.
Mais c'est une forme de mysticisme qui pourrait être attachée aussi à cet intérêt que tu portes sur l'amour dans la musique, en fait. Si tu as demandé
Oui,
à
bien
Masami
évidemment.
Akita, ben oui, donc ça c'est une forme de mysticisme aussi. Le Cantique des
Tu as
Cantiques, c'est
raison.
quand même bâti, quand même une section de la Bible au complet sur ce rapport entre le mysticisme et l'amour, et toute une tradition chrétienne occidentale qui l'a exploré à fond. Est-ce que tu... Ouais.
Exactement, j'ai été bercé de cette tradition chrétienne occidentale, et donc pour moi l'iconographie est extrêmement extrêmement importante, parce que elle est extrêmement riche. Alors je vais le dire avec des mots assez durs, mais de toute façon c'est quand même un peu cela. La religion chrétienne, c'est quand même l'adoration d'un cadavre. Et des vierges. Et donc toute la représentation dans la peinture, dans les sculptures et dans l'art liées à cette religion sont d'un érotisme macabre absolument extraordinaire. Et donc bien évidemment, ces illustrations, ces transcriptions comme ça artistiques sont extrêmement importantes pour moi, et je les aime beaucoup, même si ensuite je peux remettre en cause les croyances qui sont derrière cela. Mais bon, voilà, toute l'iconographie religieuse est absolument magnifique.
Et cette collaboration que tu mentionnais justement avec Andy Bolus, le film Evil Moisture, c'est un peu dans cette lignée. C'est un travail
Oui.
d'iconographie presque, peut-être pas religieuse, mais en tout cas, ésotérique.
Oui, on peut y voir beaucoup d'ésotérisme, mais c'est aussi des moments de ma vie qui sont importants, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une cave à Paris dans laquelle je peux m'isoler. J'aime beaucoup être sous terre, et les caves parisiennes pour cela sont extrêmement, extrêmement intéressantes. On est complètement hors de la ville, hors des sons, hors de l'atmosphère extérieure. Et dans mes caves, j'ai souvent des poupées, parce que je suis quelqu'un qui est très attaché au love doll, à des petites poupées en plastique japonaises, et qui sont des réceptacles à mes fantasmes. Et autour de ces poupées, je crée des histoires, soit avec des masques plutôt fétichistes, des masques de séclusion en cuir, qui sont importants pour moi aussi dans ma vie, ou carrément dans des fantasmagories, en m'habillant tel un monstre, en revêtant des masques, enfin tout un côté comme ça, un petit peu pubère, des films d'horreur et d'une esthétique assez outrancière, parfois grotesque, mais qui néanmoins moi me font vibrer, et j'aime vraiment me retrouver comme ça dans ces moments de calme et d'isolation dans mes caves, où je peux vivre mes propres histoires avec mes poupées et avec ces ambiances-là que j'essaie ensuite de retranscrire dans la musique ou dans des photos ou dans des films. Oui.
Mais Romain Perrault, dans ce film Evil Moisture, tu n'étais pas seul, il y avait Andy Bolus. Alors comment cette collaboration s'est-elle construite? Est-ce que vous
Avec
travaillez
Andy,
tous
nous
les
sommes.
deux? Oui.
J'ai la chance d'être ami avec Andy depuis beaucoup d'années. Et donc j'avais réalisé donc ce film chez moi, là, dans une maison de campagne, et tout était fait au caméscope. Enfin, je mettais la caméra sur un pied, et puis j'étais le réalisateur, acteur. Enfin, j'ai absolument tout fait. Et au moment de monter le film, j'ai ressenti qu'il y avait quand même un manque de cohésion. Et Andy, lui, est un artiste absolument exceptionnel que j'estime énormément. J'aime son travail graphique et je sais qu'il avait créé chez lui des petits synthétiseurs vidéo pour modifier les images. Et donc je lui ai présenté mon film et il a accepté de pouvoir travailler sur le montage et sur le rendu visuel final du film. Et donc ensuite il a travaillé pendant pas mal de temps, il a fait plusieurs versions et sur ce montage, il a fait vraiment un travail de comment on appelle ça d'effet vidéo hein, de travail sur l'image, sur la texture d'image pour voilà redonner une cohérence totale sur le film et on a signé le film à deux puisque son travail est aussi important que le mien pour la réalisation finale.
Une autre collaboration dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, parce qu'on va en écouter un extrait, c'est Saboteur, Saboteur, que tu as réalisé en collaboration avec Yves Botts. Alors, peux-tu nous parler de ce processus collaboratif, parce que tu fais pas mal de collaborations. Celle-là, c'est une collaboration essentiellement musicale. Donc, quelle est la nature de cette collaboration Saboteur, Saboteur, Romain Perrault?
Yves Botts, c'est un musicien français qui agit dans un groupe bruitiste qui s'appelle The Dust Breeders, l'élevage de poussière, les éleveurs de poussière. Dust Breeders, qui est un groupe fondateur du bruit en France, parce qu'ils sont actifs depuis le milieu des années 80. Et à la suite de mes disques de folk à chien en solo, avec Yves, on s'est dit, mais ça serait absolument super de pouvoir jouer ensemble, de faire des collaborations, de faire un duo autour de cela, parce que Yves, il a la même pratique de la guitare, que moi, de la voix aussi, par des onomatopées, des choses comme ça, très abruptes. Et c'est comme ça que nous avons commencé à créer le projet Saboteur, qui était la première cassette, puis Saboteur, Saboteur, qui est le compact disque, l'album qui est sorti récemment. Ces collaborations, elles sont jetées, c'est-à-dire que nous nous retrouvons et nous enregistrons. Il n'y a pas de répétition, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va faire. La première fois, c'était simplement deux guitares acoustiques et nos voix. Et pour Saboteur, Saboteur, nous nous sommes retrouvés dans mon studio d'enregistrement à Paris, le studio Push, où j'ai des claviers, des boîtiers d'effets, enfin plus d'instrumentation en tout cas. Et donc voilà, nous nous sommes retrouvés au studio et nous avons joué tout un après-midi et enregistré. Et les bandes brutes ont été remontées pour faire le disque. Et c'est très sauvage, il y a comme ça une énergie qui est jetée et on s'entend très très bien, on n'a pas besoin de beaucoup se parler pour savoir la direction à prendre avec Yves, on est sur les mêmes sensibilités et sur la même force de création.
Alors écoutons les 11 premières minutes de cet album Saboteur, Saboteur, collaboration de Roro Perreault et Yves Botts à l'antenne de l'Air du Yab. CKUT 90,3 à Montréal, CKUT.ca sur le web.
Yeah. Thank you.
Alors, c'était les 11 premières minutes du projet Saboteur, Saboteur d'Yves Botts et Roro Perreault qui est avec nous ce soir. Rebonsoir, Roro.
Rebonsoir.
Romain, devrais-je dire. C'est une collaboration parmi un grand nombre de collaborations que tu as entreprises depuis les années 90.
Oui, tout à fait. J'ai toujours beaucoup aimé collaborer. J'ai eu la chance de trouver des individus qui voulaient collaborer avec moi. Donc, toujours des collaborations en cours, oui.
Et particulièrement en 2011, tu as collaboré avec Marc Hurtado du célèbre projet duo Étant donné, qui fait un travail solo depuis une dizaine d'années, enfin qu'il a toujours poursuivi, qu'il poursuit depuis plus longtemps que ça, mais quand même qui s'est concentré sur son travail solo essentiellement, puis ensuite qui a collaboré avec différentes personnes, dont Genesis Peoridge, Lydia Lynch, enfin toutes sortes d'artistes. Qui viennent soit de la scène industrielle ou post-punk,
Gabi Delgado
bien sûr.
et tant d'autres, Bachir Attar, des musiciens de Jajouka, et Alan Vega, bien évidemment.
Oui, il a réalisé des films aussi d'ailleurs avec les musiciens de
Oui.
Jujuka. Et comment était donc cette collaboration avec Marc Hurtado, l'album qui s'appelle 2011, si je ne me trompe pas.
Exactement, avec Marc, j'ai vécu pendant une dizaine d'années à Montpellier, et Marc Hurtado vit à Montpellier. Et c'est une histoire absolument incroyable parce que en fait on s'est croisés à la sortie de l'école parce que nos enfants étaient dans la même école primaire et je ne sais pas pourquoi on a été attirés l'un envers l'autre mais bien sûr je connaissais le travail de Marc Hurtado au sein de Étant donné et d'ailleurs dans Étant donné c'est Marc Hurtado qui a fait toujours hein, l'ensemble des sons avec son frère Eric était principalement là pour le live et les concerts et les premiers enregistrements avant 1980 mais après c'est Marc qui a vraiment tout créé dans Étant donné et donc on commence à parler et il me raconte qu'il est en train de tourner un film sur le visage de Jajouka et moi je connais bien sûr le visage de Jajouka par William Burroughs et Brian Gysin et toute cette culture. Et on se rencontre, on parle de plus en plus l'un avec l'autre. Et à un moment, je me dis, mais c'est qui ce type qui connaît Jajouka, qui me parle de Burroughs devant l'école de nos enfants? Et c'était donc Marc Hurtado. Et depuis, nous sommes très, très amis. Il y a d'ailleurs un livre qui va bientôt sortir. Sur son travail très très prochainement et j'ai pu réécrire un texte qui sera donc dans ce livre. Il y a eu aussi à la Cinémathèque française à Paris une rétrospective de ses films. Enfin voilà, Marc Hurtado en effet il est particulièrement actif. Et donc en tant que voisin on a commencé à travailler ensemble parce qu'il a beaucoup aimé les murs de bruit que je produisais. Et c'est comme ça que petit à petit, à force de mix et de différents enregistrements, l'album et de collaboration avec Marc est sorti. Moi, j'ai donné donc des murs bruitistes à Marc de différentes textures et de différentes tonalités. Et lui, ensuite, a retravaillé complètement les murs en y apportant ses rythmiques et ses propres sons. Et puis ensuite, on a pu développer ça sur scène et nous avons fait un concert à Paris lors du festival Sonic Protest.
Et le concert est antérieur ou postérieur à la réalisation de l'album?
Le concert est postérieur à la réalisation de l'album.
Et ça ressoulève cette question de l'informe parce que Marc Hurtado, lui, travaille avec peut-être généralement des formes un peu plus identifiables. Comment s'est faite cette rencontre entre ton esthétique, qui est plutôt, à mon avis, proche du concept de l'informe de bataille et la
Oui.
sienne qui est quand même plus proche de la manière dont on compose de la musique quand même dans la tradition occidentale, bien que dans les années 80 il ait été très radical, ce qu'il a fait récemment est tout de même plus proche
Oui, je comprends.
de ce qu'on
Écoute,
connaît.
on s'est retrouvés parce que, bon, Marc, tous les sons qu'il produit viennent de la nature. Même si on a l'impression que parfois ce sont des sons électroniques ou de batterie ou de choses, en fait, ce ne sont toujours que des sons qu'il capte dans la nature et qu'il retravaille après petit bout petit bout par petit bout, il n'a aucune machine, Marc. C'est absolument incroyable. Et en même temps, je crois ce qu'il a aimé dans mon mur brutiste, c'est cette, comme tu le disais tout à l'heure, cette mise en abîme, cette espèce de mise dans la force.
Ça a coupé. Ben, on va recommencer.
Ah, et ça avait coupé.
Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, on peut reprendre.
Alors, je reprends sur Marc Hurtado.
D'accord.
Donc, avec Marc, on a en effet décidé de réaliser un disque ensemble, parce que même si nos approches sont différentes, il y a quand même des forces qui nous rassemblent. C'est-à-dire que sur les concepts, sur les idées de disparition dans le son, de pouvoir complètement disparaître dans la masse sonore et que le son soit un outil, un moyen pour qu'il y ait une certaine destruction de soi dans cette fusion sonore, voilà, hein, que lui va dire que ce son est presque cosmique, ou en tout cas stellaire, en tout cas toujours proche de la nature, et moi qui fais ces murs brutistes dans lesquels on s'engouffre complètement, ben voilà, il y a en fait eu ce même rapprochement de pouvoir s'oublier soi-même complètement dans le son qui passe, et les deux approches finalement ont été complètement complémentaires, cette complémentarité avec les murs qui forment un tapis qui forme la base et sur lequel l'ensemble des sons de Marc va se superposer, vont intervenir. Et l'album, moi, à mon sens, il est très cohérent et nos deux approches fonctionnent très bien ensemble.
Ma dernière question, Romain Perrault, elle vient de mon collaborateur et ami Pierre-Luc Vaillancourt, qui m'a aidé à concevoir cette émission. Donc, plusieurs des questions que j'ai posées ce soir viennent aussi de Luc. La dernière question, c'est devoir répondre à ces questions. Et là, ça recoupe un peu cette notion d'informe que je mentionnais plus tôt. Quelles sont les limites du langage rationnel pour décrire une telle démarche et un tel travail? Quelles sont les limites du rationnel et du langage discursif pour discuter du type de travail que tu fais?
Ce sont des questions compliquées, ce sont des questions qui soulèvent de multiples interrogations. J'ai eu la chance de participer à des colloques à Paris menés par Mathieu Saladin, qui est chercheur à l'université Paris 8, qui suit des cours comme ça sur l'esthétique sonore et sur la façon ainsi de la perte de soi et de la transcription de cette informité au sein finalement de ces murs brutistes. Le langage, en effet, il est particulier parce que même moi, au sein de ma pratique, il y a peu de langage, ou même je déconstruis même ce langage. Alors bien évidemment, on va retrouver ça depuis Dada ou depuis la poésie contemporaine, que ça soit des phonèmes ou des onomatopées qui vont être exagéré, exacerbé, mais qu'on va aussi retrouver dans le brutal death metal ou dans le noisecore ou dans le grindcore. Et donc il y a toujours cette essence comme ça, qui va être peut-être une certaine revendication, mais qui est une revendication elle-même informe, parce que mettre un propos à plat est complètement écrit. Moi-même qui doute de tout, parfois c'est difficile de pouvoir affirmer comme ça, d'apporter une affirmation sur des choses. Alors bien évidemment, j'ai aussi un autre travail qui est l'écriture. J'ai fait un recueil de textes publié à compte d'auteur récemment, qui est une part de cut-up, une part de récit, une part de poésie sensuelle, et aussi des espèces d'écrits sur les atrocités humaines, sur les meurtres et sur les choses comme ça. Donc des parts sombres de l'individu. Ensuite, est-ce que le langage tel que nous le formulons est propre à pouvoir extrêmement bien décrire les pratiques et les formes musicales. Je ne sais pas, peut-être que de temps en temps, c'est la poésie surréalisme, c'est les cadavres exquis, c'est même aussi une perte de sens qui est le plus proche de la retranscription comme ça en langage. Peut-être qu'il faut même revenir au lettrisme, hein. J'aime beaucoup Volman ou des gens comme ça, et le lettrisme, c'était vraiment se rattacher à la lettre. Il y a aussi, bien évidemment, tous les écrits des artistes bruts. L'art brut est pour moi un puits sans fond de connaissances, de recherches, de sensations, et de temps en temps, simplement lire comme ça des écrits de personnes complètement enfermées en eux-mêmes apporte beaucoup plus qu'un écrit philosophique. J'ai pu, grâce à Sonic Protest et Franck de Tengo, travailler auprès d'autistes, faire des ateliers, des colloques avec la pratique de la musique brute, comme ça, auprès des autistes. Et eux aussi sont là pour nous apporter une radicalité, une force brute et présente, comme ça, complètement libérée de toute synthèse, de tout esthétisme, quelque chose qui va juste surgir. Et c'est cette énergie-là dont j'essaie de me rapprocher, me laver, on va dire, de toutes mes connaissances et quoi que ce soit, et puis pouvoir projeter hors de moi les sons qui m'aident à être bien, parce que moi je fais de la musique simplement pour être heureux et pour être bien avec moi-même, hein. C'est très basique, c'est-à-dire que je suis heureux quand je produis mes disques, quand je fais cette musique qui parfois ignoble pour certains, parfois certaines personnes la trouvent violente ou peuvent la trouver abjecte ou extrêmement difficile. Pour moi, elle est limpide, elle est merveilleuse, elle est simplement un moment de création dans lequel je me sens bien.
C'est intéressant que tu cites l'art brut, parce que je me posais la question en préparant cette émission. Lorsque je pensais à ce concept de l'informe, je me disais qu'en fait, dans ce que j'avais, de ce que je connaissais de l'art brut, et pour être allé aussi à la fondation de l'art brut à Lausanne, avoir vu différentes œuvres.
C'est merveilleux,
ouais,
endroit.
C'est merveilleux. Ouais. Mais en fait, en général, les œuvres sont. Les formes sont très définies en art brut, étonnamment. Et les formes sont beaucoup plus floues, par exemple, chez les lettristes dans la poésie d'Isidore Isou, où par exemple, Isou va aussi dans sa théorie vouloir déconstruire le langage, pas nécessairement à partir de la lettre, mais en créant des néologismes constamment et en réinventant un langage à partir de néologismes pour repenser la manière dont on appréhende le monde. Et c'est un peu ce que tu sembles, entre autres, proposer dans ton travail musical, Romain. Je pense.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que les autistes sont des êtres extrêmement bien organisés dans leur tête, dans leur propre monde, et donc c'est vrai qu'ils sont obligés d'avoir un cadre à respecter pour leur propre confort intérieur. Ce qui est évidemment différent pour nous qui avons une réflexion, on va dire, plus sensée, et qui allons en effet trouver des moyens pour effacer, ou pour en tout cas modifier ce qui nous entoure, dont en effet les formes des mots, les formes du langage, comme nous l'a pu aussi nous l'apprendre William Burroughs, comme les lettristes et tant d'autres, et de Sarah avant eux, etc. Mais oui, c'est ça, il y a cette forme-là qui ressort, qui ressurgit, et qui, parce qu'à l'intérieur, je pense, de ces interstices, de ces propositions que nous pouvons formuler, je pense que l'auditeur ou la personne qui va recevoir ce travail va elle-même pouvoir créer quelque chose. En fait, on va faire participer dans un processus de création les personnes qui sont en face de nous, puisqu'elles-mêmes vont devoir déchiffrer et peut-être créer leur propre sens, et à nouveau créer une propre uniformité qui n'appartient qui n'appartiendra justement qu'à cette personne-ci et pas à une autre, et qui permet ainsi d'avoir un effet de transmission dans l'informe. Je ne sais pas très bien comment t'expliquer cela, mais c'est ce que je ressens.
Merci infiniment, Romain Perrault, de cet entretien, de ta générosité aussi, parce qu'on a parlé presque une heure. Alors, merci infiniment pour ta musique et cet entretien.
Merci beaucoup à toi, merci à vous de m'avoir reçu. C'est avec beaucoup de joie que j'ai pu parler avec toi et répondre à tes questions. Et j'espère, écoute, pouvoir... J'ai été dans votre belle province plusieurs fois dans ma vie, mais malheureusement, pas pour des concerts, mais j'espère pouvoir y venir bientôt et y jouer et qu'on puisse se rencontrer.
Nous l'espérons aussi, et je proposerais qu'on termine avec l'écoute d'un extrait de cette collaboration avec Marc Hurtado, Romain Perrault, de l'album 2011, pour terminer cette édition de L'Air du Diable. Et merci infiniment, Romain.
Merci à vous, portez-vous bien, restez bien confinés et à très bientôt.
Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT 90.3 FM. Relax and enjoy.
Listen. You smell something?
I'd call that a big yes.
I feel so funky.
Beckman, get a sample of this. This is hot, Ray.
I'm very excited. I'm very pleased. I want you to get right down to this. Something.
Well then, folks, it certainly appears that you have landed yourself in another CKUT 90.3 FM kind of predicament. This is Logic Johnson. That is the Durf Man.